Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Quand j'ai eu 11 ans, mes frères aînés bienveillants m'ont offert à mon anniversaire le guide du zizi sexuel de Zep. Me voilà donc à feuilleter les aventures de Titeuf, m'expliquant comment les seins poussent ou pourquoi une fille peut supporter le poids de son amoureux lorsqu'ils font l'amour. En fait, Titeuf, et donc Zep, a un peu été mon professeur d'éducation sexuelle aux premières interrogations. Fort du succès du livre, Zep a transformé l'essai et adapté le livre en exposition. C'était en 2007, premier tollé, passons. Zep revient cette année après une tournée avec cette même exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Nous sommes en 2014 et les tarés de la théorie du genre n'ont pas l'air de s'être fatigués. Je lis en effet sur le blog Big Brother du Monde.fr que l'expo a déclenché les foudres de SOS Éducation, une organisation connue pour ses prises de position conservatrices, et que celle-ci a lancé une pétition arguant « Est-il réellement judicieux de prélever encore une demi-journée sur le temps d'apprentissage des élèves pour aller leur faire humer des effluves de pieds ou d'aisselle, leur faire appuyer sur une pédale permettant de dresser un zizi piquet qui éjacule ou leur enseigner la masturbation ?» Oui, messieurs, dames, il est tout à fait judicieux que les préadolescents sachent qu'un zizi peut se dresser comme un piquet afin qu'ils ne confondent pas plus tard une œuvre érigée sur la place Vendôme avec un plug anal géant.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le sous-marin. Dans une seconde partie d'émission, vous entendrez Omer Avital, le jazzman israélo-américain qui passe en concert samedi prochain au Quai dans le cadre du festival Jazz à l'heure d'été. Anaïs livrera sa chronique Culture en milieu d'émission, mais d'abord...
De quoi croyez-vous que parlent ces médecins et ces spécialistes très sérieux? Eh bien, ils parlent de pommes de terre.
La pomme de terre apporte bien entendu de la vitamine C. La pomme de terre apporte du potassium, du fer, du magnésium.
Aimez-vous les pommes de terre? En voici.
Vraie question, aimez-vous les pommes de terre? Bonsoir Antoine Renaud.
Bonsoir.
Vous avez 20 ans, vous êtes ancien étudiant en technique de commercialisation à Bell Bay et vous vous apprêtez à partir près de 9 mois en Nouvelle-Zélande, mais pas tout seul, avec celle qui va sans doute devenir votre meilleure amie, votre confidente, une patate.
C'est bien ça.
Avant de parler de cette patate qui va intriguer les auditeurs, on va parler du voyage initial d'abord. Vous avez fini votre cursus en technique de commercialisation. Pourquoi est-ce que maintenant vous avez décidé de partir en Nouvelle-Zélande? Est-ce que ça s'inscrit dans une démarche particulière?
La découverte de ce qui nous entoure, des richesses du monde, après avoir été éduqué grâce à l'école, j'ai envie de m'éduquer par moi-même à travers tout ce qui nous entoure. Et que c'est l'environnement, le monde qui m'éduque à son tour.
Vous êtes habitué des longs voyages et des voyages loin comme ça?
Pas du tout. C'est une première grosse expérience et autant faire les choses bien, partir à l'autre bout du monde directement, tout seul.
Et pourquoi la Nouvelle-Zélande et pas l'Australie, qui est pourtant le pays dont on entend le plus parler dans cette zone-là du monde en tout cas?
Parce que justement, on entend beaucoup parler de l'Australie et la Nouvelle-Zélande un petit peu moins, bah, là de plus en plus quand même. Mais la Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays, mais très très riche au niveau géographique, enfin au niveau des paysages, mais aussi de la chaleur humaine des gens, c'est ça qui m'attire là-bas.
Alors à la base, l'idée c'est donc de partir en Nouvelle-Zélande, à vélo, et dormir chez l'habitant un petit peu, c'est ça?
C'est ça. Donc ouais, à vélo déjà, faire le tour des deux îles à vélo, donc ça c'est un petit peu une idée folle.
C'est déjà particulier.
Je me dis, mais pourquoi? Enfin, pourquoi j'ai fait ça? Enfin, pourquoi je vais faire ça? C'est vraiment de la grosse montagne. Mais du coup, c'est un challenge plus mental que physique au final. Et donc, ouais, ça va être aller à la rencontre des gens à travers différents moyens hospitaliers de rencontrer les locaux. Donc, il y a le couchsurfing déjà, qui consiste à être hébergé chez des gens qui ont un canapé ou une chambre d'amis mis à disposition pour quelques nuits gratuitement, et ou sinon à travers le woofing qui est un petit peu dans le même concept d'hospitalité, mais là on échange du travail De 4 à 5 heures par jour, il est possible d'être hébergé chez ces personnes et participer à la vie quotidienne, quoi.
Alors là, on est déjà dans une démarche de voyage responsable, ou je ne sais pas comment vous pourriez le définir, mais un voyage un peu particulier, ce n'est pas du voyage de consommateur, en tout cas.
Je l'appelle le voyage rencontre.
Le voyage rencontre. Et à cela s'ajoute une patate, une pomme de terre. Je ne sais pas si elle a un prénom, d'ailleurs.
Non, même pas de prénom. Non.
Une patate qui va vous servir, finalement, à troquer, à échanger des objets et finalement aussi à échanger avec les habitants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept?
C'est ça, je pars donc avec ce vélo et cette patate. Cette patate, en fait, c'est un créateur de liens sociaux. C'est quelque chose qui me pousse à aller vers les autres, vers les locaux et à discuter avec eux et partager un moment avec eux. Et du coup, je vais aller, grâce à ce que je vous expliquais un petit peu avant, couchsurfing et woofing, je vais aller à la rencontre des gens. Et à ma première rencontre, je vais proposer de troquer cette patate contre un autre objet. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre crayon, votre écharpe, n'importe quoi, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui a une valeur sentimentale pour vous et non une valeur monétaire. Ce qui m'intéresse, c'est pas le prix de cet objet, mais plutôt son histoire. Et donc ça sera ça. Au fur et à mesure, donc j'échangerai ma patate contre un objet, puis cet objet contre un autre, etc., etc.
L'idée, c'est pas forcément que l'objet soit de plus en plus gros.
Pas du tout. Il y en a un qui avait fini avec une maison. Moi, c'est pas du tout mon objectif. C'est plutôt le chemin, tous les échanges. C'est ça qui me semble intéressant dans l'échange.
Vous dites qu'il y en a un qui a déjà fini avec une maison. C'est un concept qui existait avant vous?
C'était en 2004, si je ne dis pas de bêtises, 2004-2005. C'est un monsieur, c'est connu comme histoire. Il était parti avec un trombone et avait annoncé qu'il voulait avoir une maison avec ce trombone à travers l'échange. Et simplement, en 20 échanges, en demandant à la communauté internet qui venait d'être créée, il était réussi à avoir sa maison. Mais là, c'est un petit peu en optique différent parce qu'il avait vraiment un objectif de valeur monétaire au bout de son échange. C'était profiter de l'essor d'Internet pour arriver à ses fins, quoi.
Et vous, finalement, à la fin du voyage, quand vous allez rentrer, l'objet final, qu'est-ce que vous allez en faire?
L'objet final, en fait, ce que je disais, c'est que ça finisse par un crayon, une statue maori, une voiture, peu importe sa valeur monétaire, je souhaite la reverser à une association. Donc, je n'ai pas encore défini quelle sera cette association, parce que ça viendra avec le feeling en fonction des rencontres. Mais je souhaite reverser cet objet, leur offrir, et après ils pourront s'en servir ils pourront soit le revendre, soit l'échanger à nouveau, soit le garder. Tout dépend de l'objet, de l'envie qu'ils en ont. Et du coup, ça me permettra de défendre, de soutenir cette association, pardon, soutenir cette cause et les valeurs qu'elle défend à ma manière. Donc plutôt que donner de l'argent, ça serait donner mon objet de ce voyage.
Sur un autre média angevin hier, vous expliquiez que la patate, vous aviez fait une petite vidéo avec, je crois que c'était à Rennes, et que rapidement les gens s'étaient agglutinés autour de vous. Ça intrigue vraiment?
Bah, c'est ça. Là, enfin, déjà, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens grâce à ce projet. Me voici d'ailleurs à Radio Campus ce soir grâce à cette idée toute bête. Et je me balade avec ma patate dans plein d'endroits et les gens me regardent, mais c'est qui ce fou? Pourquoi? Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'étais en train de revoir les photos et les vidéos que j'ai prises. Et sur certaines photos, on voit ma patate. Et en arrière-plan, on voit plein de gens genre, qui font coucou sur la photo, qui interagissent, mais à travers une photo et une vidéo. Et c'est assez marrant parce que ça interloque les gens et ils veulent communiquer avec moi pour savoir pourquoi je fais ça. Et c'est le début d'un dialogue.
Et pourquoi une patate? Parce que tout à l'heure, vous citiez l'exemple du trombone. Du ce monsieur qui était parti avec un trombone, qui était revenu avec une maison. Pourquoi une patate, en vrai?
C'est marrant, ça. Une patate, parce que c'est... un trombone, ça a été créé, usiné, fabriqué à la chaîne, c'est après vendu. Alors qu'une patate, c'est issu de la Pachamama, la mère nature, qu'on appelle dans les Andes. C'est issu de la terre, en fait. C'est quelque chose qui est non transformé, mais qui est unique. Chaque patate est différente, elle a une forme différente et elle n'a aucune valeur monétaire, mais elle est présente dans le monde entier. Et ça représente une grande richesse parce que simplement avec une patate et de l'eau, on est capable de se nourrir et subvenir à ses besoins alimentaires, quoi. C'est aussi amusant. Enfin, quand je dis je pars avec une patate, les gens se disent mais pourquoi ? Pourquoi une patate ? Et du coup, c'est à partir de là où je peux raconter mon délire, mon voyage, quoi.
Seul problème, cette patate, elle passe pas la douane en Nouvelle-Zélande.
Ah non, elle passe pas parce qu'ils ont des normes d'hygiène et c'est pas possible d'emmener des produits donc végétales et animales parce qu'ils ont eu des problèmes dans les années. Je sais plus c'est quelle année, c'est avec les rats qui sont venus par bateau et ça a causé des gros problèmes d'hygiène là-bas.
Donc
quoi.
Vous allez vous en procurer une sur place ?
Oui, ça pose pas de problème.
Va falloir tisser des liens rapidement.
C'est ça. Ça sera l'occasion.
On va poursuivre cette discussion, Antoine Renaud, juste après cette pause musicale. Ça s'appelle Cœur d'artichaut et c'est Polo et Pan.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Nous sommes avec Antoine Renaud qui s'apprête à partir près de 9 mois en voyage en Nouvelle-Zélande avec une patate. Patate qu'il échangera au fur et à mesure de ses rencontres avec les autochtones. Et Antoine Renaud, comment est-ce qu'on va pouvoir suivre votre voyage finalement ? Parce qu'une fois que la patate est troquée, on ne la voit plus.
C'est ça, c'est bien triste parce qu'elle va disparaître rapidement. Mais j'espère que la personne à qui je l'échange lui donnera encore une autre vie. Et il changera de nouveau. C'est ça qui est rigolo avec ce projet, c'est que je serai la base. Enfin, à travers cet échange, je rencontre des gens et ils se trouvent en possession d'un nouvel objet qu'ils ne pensaient pas avoir avant. Et ça se trouve, ils vont adhérer au délire et à leur tour troquer cet objet à nouveau. Et donc je suis le tronc et c'est possible qu'il y ait plein d'autres branches à travers le troc, quoi.
Et comment est-ce qu'on va le suivre, ça ?
En fait, lors de chaque rencontre et chaque échange d'objets, je prendrai en photo le moment, les gens, l'endroit, l'espace-temps, et je le publierai au jour le jour sur mon site internet que je suis en train de faire. Donc ça s'appelle thepotatotrip.fr. Et c'est donc toutes ces photos permettront de suivre l'évolution de cette patate à travers ce voyage rencontre.
Et vous n'êtes pas tout seul à vous lancer, parce que vous partez dimanche, et ça on ne l'a pas encore précisé, vous partez dimanche et là vous enchaînez les interviews, c'est un peu la semaine de rush. Vous n'êtes pas tout seul à faire ce potato trip. Vous avez eu par contre l'idée, vous d'abord il y a 6-8 mois, mais il y en a d'autres qui vous ont devancé.
C'est ça, enfin devancer c'est un grand plaisir au final, de pouvoir donner une idée et que d'autres se joignent à ce projet. En fait, je me suis dit, je partage mon voyage à travers ce site internet, mais je voudrais partager le concept de la patate qui voyage. C'est-à-dire que chacun puisse partir dans son sac à dos ou dans les sacoches de son vélo ou n'importe où avec sa patate et créer sa propre histoire. Donc c'est-à-dire n'importe qui, par exemple Charlie qui va aux États-Unis, il peut créer sur le site internet un profil, une page, donc une page vierge, et sur cette page mettre tout le contenu qu'il désire pour raconter son voyage de façon subjective et vraiment partager avec tous ceux qui suivront sur le site internet, partager son aventure. Donc à travers des vidéos, des photos, des textes, des sons, n'importe quoi. C'est vraiment un espace de partage, quoi.
Et il y a combien de patates dans le monde là en ce moment qui se baladent ?
Là, aujourd'hui, il y en a environ 25. Et maintenant, il y en a carrément sur tous les continents. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, il y a des débuts d'aventure un petit peu partout. Pour l'instant, c'est sur Facebook. C'est sur The Potato Trip sur Facebook. Mais là, avec l'apparition du site qui sort actuellement, aujourd'hui d'ailleurs.
Ce soir.
C'est ça. Avec l'apparition du site internet, ça va être vraiment le développement d'histoires concrètes. Et là, j'ai déjà reçu plusieurs articles de patates en Écosse, en Allemagne. Il y en a une qui vient d'arriver aujourd'hui en Indonésie aussi. Et c'est ça, c'est plein de petites histoires qui commencent à se monter et à se diffuser. C'est vraiment une super expérience, quoi.
Et vous me disiez tout à l'heure, avant de commencer l'émission, que vous aviez été aujourd'hui à l'Université d'Angers, qui va se faire le relais de vos aventures aussi.
C'est ça. Donc déjà, moi je viens de l'IUT d'Angers. Et les histoires de la patate seront relayées donc sur le site de l'université et au sein de l'université pour montrer les projets des anciens étudiants et puis pour promouvoir le voyage qui est une super occasion pour découvrir les richesses du monde. Et donc je serai diffusé à l'IUT et je suis en train de travailler avec l'université pour être diffusé aussi sur les réseaux de l'université et sur le site de l'université, donc c'est super. Autant de patates qui pourront voyager dans le futur.
Je ne vais pas faire de jeu de mots sur les patates ce soir, non. En parlant un peu de budget, comment est-ce que vous financez ce voyage ? Parce qu'une patate, ça ne coûte pas cher, mais la Nouvelle-Zélande, un peu plus.
La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui coûte cher, mais comme je vous en ai parlé en début d'émission, je souhaite vraiment aller à la rencontre des gens à travers des moyens non monétaires comme le couchsurfing, le woofing. C'est des communautés où l'argent n'a pas sa place et où il y a une rencontre qui se fait à travers que ce soit vraiment une hospitalité simple ou contre un échange de force de travail, ouais, contre force de travail, mais ça coûte pas énormément en logement. C'est pas comme si je suis en auberge de jeunesse pendant 9 mois où là le budget explose. C'est trouver des astuces pour que ce voyage ne coûte pas cher et être capable de survivre pendant 9 mois. Donc là, j'ai un budget très très serré de base, mais c'est ce qui fait le challenge aussi. Et c'est aussi le message que je transmets à travers ce voyage, c'est que là, je pars à l'autre bout du monde, à vélo, tout seul, avec un budget vraiment très très fin, et montrer que si moi je peux le faire, tous les autres peuvent le faire aussi, et que partons, quoi. C'est vraiment une telle expérience que tout le monde en est capable, et il faut s'en donner les moyens, quoi.
Qu'est-ce qui va se passer à votre retour, Antoine Renaud ?
Je suis en pleine réflexion là-dessus, mais c'est important de préparer son retour pour ne pas rester plané dans les airs. Je suis en train de voir pour faire une licence, revenir en faire une licence conduite de projet humanitaire, pour pourquoi pas parler de ma patate au sein d'une licence 3. Ça pourrait être intéressant et Ça se trouve, dans rien qu'un mois, j'aurais une toute nouvelle idée, je voudrais devenir ébéniste, chauffeur routier, n'importe quoi. Mais là, c'est juste histoire de me dire, en rentrant, j'ai ça. Et être rassuré, pouvoir être libre pendant mon voyage et pouvoir m'évader tranquillement, quoi.
Et avec des études de technique de commercialisation, on se dit pas, je vais peut-être déposer le concept de Potato Trip.
Ben, on m'en a parlé plusieurs fois, mais moi, si quelqu'un veut reprendre le concept, il a juste à m'inviter dans la partie et monter le concept avec moi, et là, ça sera un grand plaisir. C'est peut-être un peu utopiste comme réponse, mais ça me plaît.
Pour finir, Antoine Renaud, est-ce que vous pouvez nous livrer votre meilleure recette avec des pommes de terre ?
La meilleure recette avec des pommes de terre, ben, je suis un grand fan de raclette à toutes les sauces avec tout ce qu'on peut mettre avec. Donc, n'hésitez pas à mélanger tout, des pommes. Ah oui, c'est ça, des pommes avec de la raclette. Un délice.
Ça, c'était le conseil culinaire du soir. Donc, thepotatotrip.fr pour vous suivre. Vous partez dimanche. Bon voyage, Antoine.
Merci.
Et tout de suite, on écoute Thom Yorke avec Nose Grows Some.
I'm waiting on.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on retrouve Anaïs. Anaïs, c'est notre nouvelle chroniqueuse culture spécialisée musiques électroniques. Cette semaine, elle nous cause Boiler Room. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est le moment de le découvrir. On écoute Anaïs, elle est enregistrée, elle est dans la boîte. On accueille désormais Anaïs qui va nous parler de sa dernière découverte musicale.
Guten Tag, ce soir je vous embarque sur la planète techno et je vous fais découvrir Alex Do et sa Boiler Room du mois de septembre avec les autres DJ du label Dystopian, créé en 2009 à Berlin et composé de Faz, Vril, Rodad, Don Williams, Recondit et Alex Do.
Alors on va reprendre depuis le début, qu'est-ce qu'une Boiler Room ?
Alors une Boiler Room, c'est un projet londonien qui consiste à diffuser en direct un DJ set à audience réduite sur internet.
D'accord, et qui est Alex ?
Alors Alex, il a 24 ans et il produit de la musique techno avec ses potes du label Dystopian. Donc pour faire simple, jusqu'à ses 6 ans, Alex vit à LR et se rapproche de Berlin petit à petit. Il a toujours été en contact avec la musique grâce à ses parents, mais jamais de l'univers techno, qu'il découvrira lors d'escapades nocturnes dans Berlin avec ses amis, là où les beats le charmeront définitivement. Les sonorités sombres et violentes qui pourraient lasser le public sont dans sa performance parfaitement organisées et tiennent l'auditeur en haleine jusqu'à la fin, ce qui rend la Boiler Room presque mythique, limite culte. On ne s'attendait pas à ce qu'il dépasse la performance de Rodad, le papa du label Dystopian. Alex hypnotise tout le dimat, qu'il soit autour de lui ou devant l'ordinateur, avec des beats entraînants. D'ailleurs, je vous invite vivement à regarder la Boiler sur YouTube ou le site officiel de Boiler Room. Il y a de quoi bien rigoler, les spectateurs autour de lui sont hilarants. C'est le risque de se faire filmer pendant une heure quand on ne fait pas de la télé-réalité. Ah oui, j'ai découvert également, et ce n'est plus un secret, un Tumblr truffé de gifs où les spectateurs de Boiler se tapent la honte. Si ça vous intéresse et que vous voulez vous payer une bonne tranche de rire, je vous invite à taper sur Google « Boiler Room knows what you did last night ». Bref, revenons à nos moutons. Cette Boiler a été attendue par la communauté d'amateurs techno berlinoise et c'est un sans faute pour le cadet de Dystopian. Et nous attendons vivement des nouvelles d'Alex Do très prochainement. En attendant, son EP Stalker est disponible sur internet, vous pouvez l'écouter sur SoundCloud, Spotify, YouTube, ainsi que de nombreuses mixtapes et son passage à la concrète.
Et là, je t'arrête, c'est quoi une concrète ?
Alors, une concrète, c'est un événement musical qui se déroule sur Paris le week-end, en pleine journée, avec des DJ plus ou moins connus, de la bière et des copains. Pour résumer, Alex Do, c'est la découverte 2014, encore peu connue, il mérite beaucoup plus de notoriété. Au Wiedersehen.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Le Quai lance cette semaine son tout nouveau festival jazz à l'heure d'été, en octobre certes. Omer Avital, jazzman d'origine israélienne, est installé à New York depuis 22 ans. Il sera à l'affiche ce samedi, l'occasion de lui passer un coup de téléphone en anglais. Merci à Antoine pour la traduction. Omer Avital, vous êtes un contrebassiste israélien venu s'installer à New York à l'âge de 21 ans. Et pour commencer, j'aimerais revenir encore plus loin. Quel fut votre premier rapport à la musique quand vous étiez enfant ? Qu'est-ce que vous écoutiez à la maison ?
Well, I mean, it's hard to say, but I, in my house, my father listened to all kinds of music, American music, some jazz.
C'est difficile de se souvenir. Mon père écoutait toutes sortes de musiques. De la musique américaine des années 50, du jazz, et je baignais aussi dans la musique traditionnelle et dans la musique classique européenne. Et bien sûr, le rock, la pop, tout ce qui passait à la radio. J'ai donc reçu un tas d'influences différentes qui m'ont toutes marqué, plus ou moins. On grandit tous dans une sorte de mosaïque sonore.
I guess we all grew up in a very, it was a bit of a mosaic of things.
En 1992, à 21 ans, vous partez vivre à New York avec Avi Leibovitch et Avishai Cohen. Pourquoi avoir fait ce voyage?
Well, you know, obviously at that point I was playing jazz and we were playing as much as we could in Israel. I was gigging in.
À l'époque, j'enchaînais les concerts en Israël. Je savourais vraiment ça, mais on avait ce rêve d'aller à New York.
You know, basically to play with the greats and the legends and to become a part of
pour jouer avec les grands, les légendes du jazz, pour s'améliorer.
Yeah, to get better.
Et vous avez pu jouer avec ces légendes en débarquant à New York?
Yeah, yeah, I met a lot of older musicians. They were great. I got to play a little bit with Barry Harris. I worked with Roy Haynes.
Ouais, j'ai rencontré des anciens que j'admirais. J'ai joué avec Barry Harris, j'ai travaillé avec Roy Haynes et des gens comme Jimmy Lovelace, ancien batteur pour Wes Montgomery. Et puis plein d'autres qui sont moins connus ou que j'ai oubliés. La beauté du jazz, c'est qu'on apprend de tout le monde.
It's like life. You learn the most from your peers, from your friends, the age group that you grow with. So I had many, many friends like Jason Lindner.
Un peu comme dans la vie. On a ses camarades, ses professeurs.
Aaron Goldberg, Brad Meldow, Peter Bernstein, some of them were younger, some older, but from around our era.
Moi, j'avais des camarades comme Mark Turner, Aaron Goldberg et un professeur aussi expérimenté que Jimmy Cobb. Et ce fut la plus belle façon d'apprendre.
Anybody that had more experience and more knowledge than we did at the time.
Et vous continuez de jouer avec vos camarades sur New Song, votre dernier album sorti au printemps. On y retrouve Avishai Cohen à la trompette, Joel Fram au saxo ténor, Jonathan Avishai au piano et Daniel Friedman à la batterie, ce qui est franchement un beau casting.
Yeah, thank you.
Ce sont des amis à vous, c'était naturel de les inviter à jouer sur cet album. Et comment était l'ambiance durant les sessions?
Well, it was very natural and that's what I've been doing for a long time, you know.
Oui, c'était très naturel, et c'est ce que je fais toujours, jouer avec mes amis. Et je réalise que c'est une vraie chance. On se connaît très bien, on a une longue expérience commune, et ça rend l'atmosphère vraiment confortable. On a développé un langage ensemble, que l'on retrouve dans la musique. Alors ouais, c'est vraiment une chance.
Et vous arrivez quand même à avoir le recul nécessaire pour être critique et diriger vos amis?
Eh bien, on s'y habitue. On y travaille, on répète aussi longtemps qu'on a besoin. C'est un processus sérieux, et plus on vieillit, moins on a besoin de se dire les choses entre musiciens. Mais tout le monde a sa propre personnalité, il faut le prendre en compte. C'est comme une famille, avec tout ce que ça implique, les côtés positifs comme négatifs. Musicalement, en tout cas, c'est toujours gratifiant.
Omer Avital, comment transposez-vous votre travail de studio sur la scène? Est-ce qu'il y a plus d'improvisation ou est-ce que les musiciens doivent suivre une direction précise?
Bien, on joue les mélodies et les arrangements, mais c'est vraiment ouvert. Ce n'est pas du free jazz, j'accorde quand même de l'importance au groove d'origine, mais les solos permettent d'enrichir tout ça.
Quel est l'état d'esprit idéal à avoir quand on vient vous voir jouer et dans quel état d'esprit allons-nous repartir ensuite?
Dans un meilleur état d'esprit, j'espère. On essaye en tout cas de changer quelque chose de l'intérieur. On vous aide à voir des choses que vous n'aviez pas vues, à ressentir quelque chose de différent sur la vie et la musique. Dans l'idéal, j'aimerais créer une atmosphère positive, voire même joyeuse. Si ça marche pas, tant pis, ce sera une ambiance plus lourde et on essaiera de l'exploiter.
Dernière question, il y a pas mal de jeunes musiciens de jazz ici à Angers, vous auriez des conseils à leur donner? Est-ce qu'ils doivent aller à New York eux aussi?
Obviously go to New York is very good. If you play jazz, I think it's a must. You have to go to New York.
Oui, bien sûr, si on joue du jazz à la New York, c'est un passage obligatoire. Il n'existe pas de meilleur endroit pour ressentir la diversité du jazz.
You know, competition in a positive and negative ways, but you have to deal with it.
La compétition là-bas est très forte, mais il faut s'y confronter. Et je dirais même qu'une partie essentielle de l'apprentissage, c'est de jouer avec des gens qui ont plus d'expérience. Trouver sa propre voix, c'est bien, mais il faut garder ça pour plus tard.
the past 10 or 15 years.
Depuis quelques années, pas mal de débutants veulent d'emblée imposer leur style. Ils ont vraiment confiance en eux. Et je pense qu'au départ, il faut avoir peur. Il faut prendre la mesure de tout l'héritage du jazz et trouver des musiciens bien meilleurs que soi pour jouer, garder cet héritage vivant.
I mean, they're keeping that tradition alive. You know what I mean? If a drummer played with Ray Brown, then you know that this drummer played with Ray Brown.
Ce batteur a joué avec Ray Brown, alors jouer avec lui, c'est aussi jouer avec Ray Brown.
You know, and it's not about the media, and it's not about the.
C'est très simple. Il ne faut pas se soucier des médias ou des festivals. Il faut se soucier de la musique. Et si on arrive à rentrer dans cet univers, tout ira bien.
C'est comme la mafia, une grande famille où il faut connaître tout le monde.
Bien, c'est comme la mafia, même s'il est question avant tout d'une quête spirituelle. On peut facilement dire qu'il s'agit d'une société secrète, surtout à l'époque où il fallait vraiment se faire accepter. Il fallait jouer devant quelqu'un de vraiment bon pour qu'il t'embauche. Roy Haynes m'a vu jouer et il m'a embauché. Ça m'a vraiment donné l'impression d'avoir ma place. C'est plus important que le public ou que les critiques extérieures au départ. Il faut simplement se concentrer sur l'essence même de la musique et la vérité des choses. C'est difficile. C'est la quête de toute une vie. Et si on ne le sent pas, mieux vaut faire autre chose, mieux vaut se lancer dans une entreprise plus lucrative. Mais si on rentre dans le monde du jazz, il faut être en accord avec tout le passé qui va avec. Et chercher à comprendre l'importance d'anciens comme Louis Armstrong ou Sonny Rollins. Et c'est pas rien, c'est une grande vague d'énergie spirituelle qu'il ne faut pas prendre à la légère.
Not to be taken lightly.
Well, thank you for the advice and thank you for the interview.
All right, thank you so much for calling us.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Omer Avital, qu'on écoute tout de suite avec New Song, un extrait de son dernier album sorti au printemps. Thank you.
19h-20h, le sous-marin, sur Radio Campus Angers.
Omer Avital, que vous retrouvez donc samedi au quai à 20h30 dans le cadre du festival Jazz à l'heure d'été. La perme de ce soir, ça se passe au Terroc Coco. La pop psyché de Bernadette 3 sera en live à partir de 21h30, suivi d'Ayana Reading du punk blues. Si, si. Le Terroc Coco, où vous retrouverez Radio Campus Angers en plateau une fois par mois, début des hostilités, le vendredi 28 novembre. Vous pouvez déjà réserver votre soirée. On termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore, un moment campusien, à écouter ou à réécouter. Hier, les sportifs inauguraient leur nouvelle émission, Ta gueule Coubertin, un mardi sur deux, de 20h à 21h. Charlotte a livré son billet d'humeur sur la célébration des buts. En voici un extrait.
Aujourd'hui, je tenais à vous parler de cette mode de célébrer un but. Une mode qui date, puisque le joueur de football brésilien Bebeto l'a en partie innové, voire rénové en 1994. Année de ma naissance, est-ce une coïncidence? Je ne pense pas. Bref, il joignait ses bras pour faire le geste de bercer un bébé, un geste aujourd'hui vu et revu. Du coup, marquer un but devient le moyen de célébrer autre chose, comme une naissance, avec les joueurs qui font le geste de Bebeto, les autres qui sucent leur pouce, ou encore ceux qui prennent le ballon, le mettent sous leur maillot en signe de femme enceinte. Certains célèbrent un mariage, d'autres rendent hommage. Bref, il y a de tout. Célébrer un but, c'est en fait laisser exploser sa joie et faire un geste montrant cette joie. Bon allez, soit, c'est sympa, ça donne un peu de spectacle, ça devient même un suspense à savoir « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci ?» Ouais, gros suspense, je sais. Mais bon, regardez par exemple notre cher joueur de football portugais Ronaldo qui fait toujours la même chose en sautant sur ses deux pieds, en prenant la posture d'un toréador et en bombant le torse, signe de « Ouais, je suis plus fort, admirez-moi ». Donc là, gros suspense à savoir s'il va vraiment le faire.
Vous pouvez réécouter la totalité du billet d'humeur de Charlotte ainsi que Ta gueule Coubertin sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez une émission désormais culte sur le 103 FM avec les geeks de Pas de Panique. Salut Profi.
Salut Tiffaine.
Alors, est-ce que déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, tu pourrais réexpliquer un tout petit peu le concept de Pas de Panique?
Pas de Panique, c'est l'émission geek de Radio Campus. On vous parle de jeux vidéo, de nouvelles technologies, d'internet et puis on fait surtout des blagues.
Des blagues. Et ce soir, vous allez blaguer sur quoi?
Ce soir, on reste dans le thème de l'année, on parle des vacances d'été.
Ok, très bien, en octobre. Donc c'est à 20h jusqu'à 21h. Merci Profi, bonne émission. Nous, on se retrouve demain, dès 19h. Le sous-marin accueillera deux jeunes inventeurs qui ont créé leur brasserie artisanale au Pont de C. Pour ce soir, merci à Anaïs, merci à Thomas qui a co-préparé cette émission, à David et à Maëlle pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.